RPL, votre radio Lorraine.
Votre radio Lorraine.
RPL.
89.2.
Nous accueillons aujourd'hui Karine S. Marchand, CPE depuis 30 ans et autrice engagée. Son essai « Quad meuf, madame la CPE » préfacé par la présidente de la FNCIDFF, la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, nous plonge au cœur du quotidien scolaire et des réalités que vivent les filles aujourd'hui. Elle y propose des pistes concrètes pour agir en faveur de l'égalité, comprendre les violences du genre et accompagner les adolescents et adolescentes à l'heure où le programme EVARS devient obligatoire en France. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir à ton micro, Géraldine.
Mais merci à toi d'être avec nous. Parlons tout de suite de cet essai. Quoi de meuf, madame la CPE, on ne se trompe pas. Hein. Qu'est-ce qui a fait de l'égalité fille-garçon ce combat depuis 30 ans en tant que CPE?
Alors écoute, je crois qu'on exerce nos fonctions en fonction de qui on est, des valeurs et des combats que l'on porte dans la tête et dans le cœur. Et on ne va pas se cacher, moi je suis une féministe, une vieille féministe hein, parce que j'ai plus de 50 ans. Mais à force d'observer ce que vivent les filles dans mon lycée, les confidences qu'elles me confient sur leur mal-être, les injonctions dont elles font toujours l'objet, hein, les filles, elles ne sont jamais trop ceci ou pas assez cela. J'ai voulu témoigner de ça. Voilà.
Comment ton rôle de référente égalité a-t-il changé le regard sur les violences de genre?
Alors, jusqu'ici, dans l'éducation nationale et au-delà, on parle de l'égalité filles-garçons. Et moi, avec le temps, je me rends compte qu'on devrait plutôt parler de l'égalité de genre, qui est bien plus large que la seule binarité qui est hérité de la société patriarcale. Moi, j'ai de plus en plus d'élèves qui osent me dire qu'ils ne se sentent ni tout à fait filles, ni tout à fait garçons. Donc, tu vois, il y a encore une place pour les noms binaires. Donc, leurs témoignages sur ces questions-là, bien sûr, ont fait évoluer mon regard, moi qui suis une vieille hétéro classique, cisgenre, voilà. Et le mal-être aussi de ces ados qui ne savent plus tellement qui ils sont et vers qui ils sont attirés. Voilà. Ce qui implique d'ailleurs beaucoup de souffrance dans la santé mentale des jeunes.
Et pourquoi avoir choisi l'essai pour parler de ces violences sexistes et sexuelles?
Alors j'ai envie de te dire déjà pour jouer la carte de l'humour parce que quand on parle on n'est jamais trop entendu. Donc j'ai choisi l'écriture, c'est un moyen de communication que je pense aimer et maîtriser. Je voulais, si tu veux, mettre en lumière des préconisations. Dans mon livre, j'essaie d'être utile, de donner des pistes aux parents, aux éducateurs, mais aussi aux élèves eux-mêmes. J'avais envie de partager mon retour d'expérience. Tu vois, témoigner, c'était aussi dire... je mets un coup de projecteur, je mets en lumière ce que je vis, ce que je vois, pour essayer de faire avancer la cause de l'égalité.
Et qu'est-ce que ça représente pour toi la dimension sorore et collective de cet ouvrage que j'ai sous les yeux et qui est très intéressant hein?
Oui, merci pour cette question. C'est mon deuxième ouvrage et celui-ci, je l'ai voulu soror, tu as raison. C'est-à-dire que j'avais à cœur de choisir une éditrice femme, une illustratrice femme. Je mets le témoignage aussi d'une amie qui est sexologue sur le Grand Est. Donc je voulais pour une fois, les femmes ont toujours été tellement silenciées, tellement oubliées. Cette fois-ci, c'était important de m'entourer de femmes qui, je savais, partageaient les mêmes valeurs que moi.
Quel rapport de pouvoir on peut observer aujourd'hui entre les filles, les garçons, au collège et au lycée? Parce qu'apparemment, c'est vrai que le changement entre les deux est parfois difficile.
Oui. Bon, si on parle chiffres et un peu de choses désagréables tout de suite, il y a plus de 70% des sanctions qui ne concernent que les garçons. D'accord. Donc déjà, voilà, au niveau du respect du règlement intérieur, la plus grande part des punitions et des sanctions sont attribuées aux garçons. Donc ça dit déjà un peu ce rapport de pouvoir. Ce que je peux observer que les élèves me rapportent aussi, c'est que les garçons envahissent les espaces scolaires, la cour, la cantine, le portail, ils envahissent aussi les salles de classe avec un temps de parole toujours un peu plus important que celui des filles. Les profs me disent aussi que quoi qu'ils fassent, il y a une répartition un peu genrée, si tu veux, des tâches dans la classe. Je dis un exemple, un prof demande, je sais pas, fait un débat ou demande à ce qu'il y ait un rapporteur ou une secrétaire de séance. Jamais un garçon ne se donnera, sera volontaire pour être secrétaire de séance. Parfois même, il y en a un qui a dit, non mais madame, secrétaire c'est un nom féminin. Donc c'est une tâche subalterne, moi je suis un mec, je ne veux pas faire ça. Donc voilà, le rapport de pouvoir aussi, c'est que voilà, il y a des tâches qui sont un peu genrées encore dans la classe, malgré les efforts des profs. C'est voilà, faire de l'orientation non genrée, dire aux filles que toutes les carrières leur sont ouvertes et que voilà, qu'elles soient ambitieuses et qu'elles ne refusent rien, mais comme les garçons aussi.
Oui.
Les garçons, tu as raison, sont peu dans les métiers du care et voilà, et on devrait travailler là-dessus, oui, sur l'orientation.
D'accord, oui. Du boulot, je crois. Quelles violences reviennent le plus souvent dans ton bureau?
Alors, peut-être les rumeurs,
ouais.
L'impact des réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Souvent, les jeunes filles viennent me dire aussi qu'elles souffrent du partage, tu vois, non autorisé des photos qu'elles avaient échangées lorsqu'elles étaient en couple. Le partage de photos de deux ex-amoureux qui rompent, et puis après, les filles voient, bah, de toute façon, les filles voient toujours leur corps sexualisé par les garçons. Mais voilà, les filles ont toujours peur de l'image que les autres donnent d'elles sur les réseaux sociaux.
Et qu'est-ce que ça révèle des ados de 2026?
Bah, ça n'a jamais été facile d'être un ado. Hein. On tombe la carapace, on a un corps qui évolue, on ne sait plus trop qui on est. Mais j'ai envie d'être optimiste à ton micro. Moi, les adolescentes que je vois, je les trouve beaucoup mieux informées qu'avant. Certaines sont aussi très combatives, bien plus que moi, parce que moi, mon combat, finalement, est arrivé assez tard. Je te l'ai dit, je suis une quinca. Et je pense que j'avais pas conscience, comme elle, là, à 15-16 ans, des enjeux qui m'attendaient. Voilà. Elle rêve de vouloir être sous le regard des autres, ce qu'elles sont vraiment, sans avoir à se justifier. Elle rêve de liberté, parce que les filles, elles se sentent toujours un peu coincées entre, excuse-moi des gros mots, c'est soit je suis une sainte, soit je suis une pute, mais comment je fais pour être au milieu et être qui je veux être, la liberté d'être soi-même.
J'ai l'impression que nous, à leur âge, puisqu'on a le même âge, hein, tous les deux, on était un peu naïfs peut-être, non?
Oui, c'est sûr aussi. Hein? Bah, tu sais, je le suis. Oh, je le suis encore. Hein. Souvent, lorsqu'elles viennent me parler, des fois, je me dis, oh, dans ma tête, hein, je me dis, ok, je suis vraiment vieille, parce que là, j'aurais pas pensé ça et tout ça. Et c'est ce qui fait le bonheur de mon métier. J'en parle dans mon livre. Voilà, moi, d'être au contact des ados, tu as raison, ça combat ma naïveté.
Parlons des témoignages dans le livre. Comment qu'on fait pour choisir parmi tous ces témoignages?
Bah, t'as raison, c'est pas facile, parce que bah, choisir, c'est exclure, et j'aurais envie de mettre en lumière toutes et tous. Mais j'avais quand même en tête que je voulais produire un essai inclusif. Tu vois, je voulais donner la parole aussi aux élèves qui vont bien, aux élèves qui vont pas bien, à la communauté LGBTQIA+. J'ai consacré aussi un chapitre sur les élèves porteurs de handicap invisible, ceux qui sont porteurs de 10. Donc, je n'ai pas voulu faire un ouvrage que pour les filles, par les filles. Voilà. Mon ouvrage est inclusif, filles, garçons, pour essayer de rendre compte des préoccupations du plus grand nombre. Voilà, dans l'altérité des élèves que je reçois.
L'ouvrage peut aider les équipes à aborder le fameux programme qui est donc obligatoire depuis septembre 2025. Alors, c'est éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Moi, j'y ai voir,
oui.
Ça va plus vite. Hein. Alors, en quoi il peut aider?
Alors, tu as raison, c'est un tout nouveau programme. Hein. On essuie encore un peu les plâtres dans les établissements parce que, donc, il est rendu obligatoire, mais on est peu formé et on n'a pas de recul et que, il y a beaucoup à faire. Donc, j'ai réfléchi dans mon livre à ce qu'il prenne la forme d'un manuel de ressources et d'actions. Il y a vraiment des pistes empiriques, des références. Il y a à la fin de l'ouvrage ce que j'appelle une égalitech, avec un peu des supports qui peuvent être exploitables par un parent, par un prof, par un éducateur, pour essayer d'aborder voilà, l'éducation à la vie affective et sexuelle avec des petits supports que l'on peut... certains sont par exemple des affiches, je pense à la roue du consentement, ce sont des outils que l'on peut télécharger gratuitement en ligne. Donc, lorsque l'on a la tête dans le guidon, Evars, bah, c'est pas facile quand on est prof ou CPE d'y réfléchir. Donc là, si tu veux, je banalise un peu le truc en disant, je balise un peu le sujet en proposant des références. Voilà.
Et enfin, s'il y avait un message à transmettre aux filles et aux garçons, ce serait lequel? Il y en a tellement.
Alors ouais, j'ai envie de dire, bah, ensemble on est plus fort. Voilà. J'aimerais arriver à éduquer les filles à davantage de sororité, c'est-à-dire comment on fait pour se serrer les coudes et s'entraider plutôt que d'être toujours dans la rivalité et ou la mise en concurrence avec les garçons. Voilà, je suis un peu peut-être naïve, mais je crois en la sororité. Et puis le message que je voudrais dire aussi, c'est respectons les différences. Voilà. Si on peut amener les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, hein, à respecter soi-même, respecter les autres, respecter l'altérité, eh ben, je pense que ça amènerait à plus d'égalité. Voilà. Parce qu'on s'ennuierait si on était tous semblables. Et c'est cette différence qui fait la richesse des rapports humains, mais elle n'est pas toujours facile à accepter, sans ouais. être jugée.
Et pas que par les ados.
Et pas que par les ados. Ouais.
Alors, Quoi de meuf, madame la CPE, disponible aux éditions Céramis, alors une lecture indispensable pour toutes celles et ceux qui veulent faire avancer l'égalité.
Je vais faire vivre celui-ci au livre sur la place le 13 et le 14 septembre à Nancy.
À Nancy. Mmh.
Et voilà.
Voilà. Merci Karine S. Marchand, CPE, je le rappelle, depuis 30 ans et autrice engagée. Quoi de meuf, madame la CPE. Vous le retrouvez donc en tapant sur Google, on retrouve tous les sites. Merci.
Merci à toi.
Bonne journée, à bientôt, au revoir.
RPL.